Introduction. Je peux bien l'avouer aujourd'hui, toute ma vie, j'ai été en gogo. Du plus loin que je me souvienne, j'ai été la cible rêvée d'être démarcheur, quêteur et opérateur de tout poil. Certes, il n'était qu'une poignée à œuvrer pour la mauvaise cause. Les autres, les représentants d'associations caritatives par exemple, étaient dotés des meilleures intentions du monde. N'empêche, je me retrouvais régulièrement en possession d'abonnements à des magazines sans intérêt ou de billets d'entrée au bal des éboueurs, ce qui ne laissait pas de m'inquiéter. Cette longue expérience de pigeon explique sans doute mon intérêt pour l'étude de la persuasion. Quels sont les facteurs qui poussent une personne à dire oui à une autre? Quelles sont les techniques les plus efficaces pour obtenir ce consentement? Je me suis aussi posé cette question. Pourquoi une demande émise d'une certaine façon sera-t-elle rejetée alors que la même requête formulée légèrement différemment obtiendra une réponse favorable? Aussi, en tant que chercheur en psychologie sociale expérimentale, je me suis mis à étudier la psychologie de la persuasion. Au début, mes recherches consistaient en une série d'expériences menées principalement dans mon laboratoire sur des étudiants. Je voulais savoir quels principes psychologiques sous-tendent la propension à se conformer à une demande. Actuellement, les psychologues en savent un rayon sur ces principes, sur leur nature et leur fonctionnement. J'ai qualifié ces principes de leviers d'influence. Et dans cet ouvrage, j'aborderai les plus déterminants d'entre eux. Après un temps, j'ai cependant conscience que, bien que nécessaire, le travail expérimental n'était pas suffisant. Il ne me permettait pas de juger de l'importance de ces principes hors du département de psychologie et du campus où je les observais. Si je voulais comprendre pleinement la psychologie de la persuasion, j'allais devoir élargir l'étendue de mes recherches. Il me faudrait consulter les professionnels de la persuasion, ceux-là même qui, depuis toujours, appliquaient ces principes à mes dépens. Ils savent ce qui est efficace et ce qui ne l'est pas, comme l'atteste la loi du plus fort. Leur métier est de nous faire céder et notre consentement est leur gagne-pain. Ceux qui ignorent comment amener quelqu'un à dire oui passent rapidement à la trappe. Ceux qui le savent deviennent riches. Bien entendu, les professionnels de la persuasion ne sont pas les seuls à connaître et à utiliser ces principes pour arriver à leur fin. Nous les employons tous et en sommes tous victimes à un certain degré dans nos interactions avec nos voisins, amis, amants et les membres de notre famille. Mais les praticiens de la persuasion ne sont pas des amateurs. Ils ont une appréhension beaucoup moins vague que la nôtre de ce qui fonctionne. En réfléchissant, j'ai compris qu'en matière de persuasion, ils représentaient la mine d'informations la plus riche à laquelle j'avais accès. Alors, pendant près de 3 ans, j'ai associé mes études expérimentales à un programme nettement plus réjouissant. Je me suis systématiquement immergé dans le monde des professionnels de la persuasion. Commerciaux, quêteurs, responsables marketing, recruteurs et autres. Je me suis donné pour mission d'observer de l'intérieur les techniques et stratégies les plus répandues et les plus efficaces d'un large panel de professionnels de la persuasion. Cette immersion a parfois pris la forme d'entretiens avec ces professionnels. D'autres fois, j'ai interrogé leurs ennemis naturels, par exemple, agents de la brigade antifraude, journalistes d'investigation, agences de protection du consommateur. J'ai aussi longuement examiné les documents écrits grâce auxquels les techniques de persuasion se transmettent d'une génération à l'autre, manuels de commerce, etc. Mais le plus souvent, j'ai recouru à l'observation participante. Une méthode d'étude dans laquelle le chercheur devient une sorte d'espion. En masquant son identité et ses intentions, celui-ci infiltre le milieu qui l'intéresse et devient membre à part entière du groupe qu'il entend étudier. Aussi, lorsque je voulais m'initier aux tactiques des vendeurs de magazines ou d'aspirateurs, de portraits ou de compléments alimentaires, je répondais à une offre de formation et je me faisais enseigner leur méthode de vente. En utilisant des approches similaires adaptées au cas par cas, j'ai pu m'introduire dans des agences de publicité, de relations publiques et de collecte de fonds pour analyser leurs techniques. Par conséquent, la plupart des éléments présentés dans ce livre proviennent de mon expérience en tant que faux professionnel de la persuasion, ou aspirants praticiens, dans diverses organisations dont l'objectif est de nous amener à dire oui. Au cours de ces 3 ans d'observation participante, j'ai appris quelque chose de très instructif. Bien que les praticiens de la persuasion emploient des milliers de stratégies pour obtenir ce oui, on peut les regrouper en 7 catégories. Chacune d'entre elles correspond à un principe psychologique fondamental qui gouverne le comportement humain et confère ainsi leur puissance à ces tactiques. Ce livre est articulé autour de ces 7 principes, à raison d'un par chapitre. Ces principes, réciprocité, sympathie, preuve sociale, autorité, rareté, engagement et cohérence et unité, sont abordés d'une part sous l'angle de leur fonction dans la société et d'autre part selon la manière dont les professionnels de la persuasion tirent profit de leur pouvoir considérable en les intégrant à des sollicitations d'achat, de dons, de concessions, de votes ou de consentement. Chaque principe est étudié en fonction de sa capacité à produire un type spécifique de consentement automatique, autrement dit, à amener les gens à dire oui sans réflexion préalable. De toute évidence, avec le rythme effréné de la vie moderne et la surabondance d'informations, cette forme de consentement irréfléchi va jouer un rôle de plus en plus prégnant. Par conséquent, il va devenir crucial pour nos sociétés de comprendre les rouages de l'influence conditionnée. Enfin, dans cette édition, j'ai organisé les chapitres autour d'un concept développé par mon collègue, le Dr. Grégory Neidert, selon lequel certains principes sont plus utiles que d'autres en fonction de l'objectif de persuasion que le communicant souhaite atteindre dans son message. Certes, tous les aspirants influenceurs veulent créer un changement chez les autres, mais selon le modèle des grandes motivations de l'influence sociale de Neidert, l'objectif du communicant, à un moment donné, affecte le choix du principe d'influence qu'il doit utiliser. Par exemple, ce modèle affirme que l'une des motivations essentielles, objectif, d'un influenceur est de cultiver une relation positive. Les recherches montrent que les messages sont plus susceptibles d'être efficaces si l'on amène préalablement leur destinataire à éprouver des sentiments positifs envers le messager. 3 des 7 principes d'influence, réciprocité, appréciation et unité, semblent particulièrement appropriés à cette tâche. Dans d'autres situations, par exemple, lorsqu'une bonne relation est déjà établie, on peut octroyer la priorité à l'objectif de réduire l'incertitude. Après tout, une relation positive avec un communicant ne suffit pas forcément pour convaincre le destinataire du message. Avant de changer d'avis, les gens veulent être sûrs que la décision qu'on leur demande de prendre est sage. Dans ces circonstances et en fonction du modèle, les principes de la preuve sociale et de l'autorité doivent toujours être pris en compte. Quand on sait qu'un choix est approuvé par des pairs ou des experts, il semble effectivement avisé. Cela dit, même en cultivant une bonne relation et en réduisant l'incertitude, il reste un objectif à atteindre pour augmenter la probabilité d'un changement de comportement. Dans cette situation, l'action motivante devient le principal objectif. Autrement dit, un ami proche pourra me fournir de multiples preuves que, selon l'opinion commune, l'exercice quotidien est une bonne chose et que les plus grands experts médicaux louent ses bienfaits sur la santé. Cela ne suffira peut-être pas à me convaincre de faire un footing tous les jours. Cet ami gagnerait à inclure dans son message les principes de cohérence et de rareté. Il pourrait le faire, par exemple, en me rappelant mes déclarations publiques passées sur l'importance que j'accorde à ma santé, cohérence, et sur les plaisirs auxquels je devrais renoncer si je la perdais, rareté. Ce serait le message le plus susceptible de transformer une simple décision d'agir en étape concrète basée sur cette décision. Par conséquent, c'est le message qui a le plus de chances de me faire lever le matin pour aller à la salle de sport. Le séquencement de ces chapitres tient donc compte des principes les plus adaptés à l'obtention de ces 3 motifs de persuasion. Réciprocité, appréciation et unité, quand la culture de la relation est importante. Preuve sociale et autorité lorsque c'est la réduction de l'incertitude qui prime. cohérence et pénurie, quand la motivation de l'action est l'objectif numéro un. Attention, je ne suggère pas ici que ces principes associés sont les seules options pour atteindre leur objectif respectif, mais plutôt que, s'ils sont disponibles pour atteindre un objectif défini, il serait réellement dommage de ne pas les utiliser.